France Culture, il est midi et demi. Avec vous, Thomas Cluzel, le journal. Bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. En Algérie, les contestataires entendent mobiliser massivement aujourd'hui lors du premier vendredi de manifestation depuis qu'a été annoncée la date de la prochaine présidentielle, le 4 juillet. Ils craignent que ce scrutin ne serve qu'à conforter le pouvoir intérimaire en place incarné par un apparatchik du régime Bouteflika Abdelkader Ben Salah.
À 9 jours du scrutin, le second tour de l'élection présidentielle en Ukraine est scruté de près partout en Europe.
Oui, et plus particulièrement en France où le président Emmanuel Macron recevra cet après-midi les deux finalistes, le sortant Pedro Poroshenko et puis le comédien novice en politique et favori des sondages, Volodymyr Zelensky.
Dans votre journal également, Thomas Cluzel, une fiscalité directe est la meilleure solution pour financer l'audiovisuel public.
Déclaration ce matin du ministre de la Culture, Franck Riester, lequel était interrogé sur une éventuelle suppression de la redevance après les déclarations du ministre des Comptes Publics, Gérald Darmanin. Enfin, quand les produits ménagers, industriels se révèlent toxiques et contribuent à polluer l'air intérieur, c'est ce qui ressort d'une étude de 60 millions de consommateurs publics. Et aujourd'hui, le magazine a étudié la composition de 60 produits ménagers parmi les plus vendus. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Il ne regrette pas le choix des Britanniques, mais la lenteur du processus. Le partisan du Brexit et philosophe conservateur britannique Roger Scruton est l'invité de la deuxième partie de la grande table à l'occasion de la parution de son essai « L'erreur et l'orgueil » aux éditions de l'Artilleur.
Merci et à tout à l'heure. Si au Soudan, 30 années de colère d'une population persécutée et exploitée seront enfin venues à bout hier du dictateur Omar el-Béchir, il n'aura fallu en revanche que quelques heures à peine après la publication dans l'après-midi du communiqué des militaires pour que la déception des Soudanais soit à la hauteur de la joie qui les avait saisis le matin même. L'annonce de la formation d'un conseil militaire chargé d'assurer l'intérim pendant 2 ans et dirigé par le ministre de la Défense, bien loin de répondre aux attentes des manifestants, ressemble surtout à s'y méprendre à une caricature de ces putschs qui, depuis un demi-siècle, auront trop souvent rythmé la vie politique de nombre de pays africains. Et d'ailleurs, hier, l'histoire d'Omar el-Béchir se sera au fond terminée exactement comme elle avait commencé, comprenez, par un coup d'État militaire. Et puis évidemment, difficile aujourd'hui de ne pas rapprocher l'éviction donc d'Omar el-Béchir de celle d'Abdelaziz Bouteflika, et pas uniquement parce qu'elle marque toutes les deux la fin de décennies de règne sans partage. Thibaut Cavaillès, bonjour.
Bonjour Thomas.
En Algérie, comme au Soudan, l'armée a semble-t-il tendance à jouer les faiseurs de roi, et de manière assez machiavélique d'ailleurs, puisque ce qu'elle donne d'une main en soutenant la contestation populaire, elle le reprend aussitôt de l'autre en refusant de se plier à la souveraineté populaire. Avec une différence notable toutefois, Thibaut, puisqu'en Algérie, contrairement au Soudan, l'armée n'est pas disposée a priori à faire usage de la force.
Oui, pour l'instant Thomas, depuis le début de la contestation algérienne, l'armée n'a fait usage que d'une force politique, poussant le président affaibli à la démission sans avoir à le déloger, ce qui a donné à l'armée une place encore plus importante au sein du pouvoir, tout en respectant la constitution pour cette phase de transition. L'armée met toutefois en garde les manifestants. Des parties étrangères sont derrière la contestation pour les inciter, ces manifestants, à rentrer chez eux. Mais elle n'a jamais voulu prendre la main au niveau sécuritaire. La question ne se pose même pas, selon Akram Karieff, journaliste algérien spécialisé défense et sécurité.
Pour qu'elle réprime, il faudrait qu'elle sorte, qu'elle soit déployée dans la rue. Et là, c'est un scénario qui est totalement exclu. L'armée n'a plus cette vocation de faire du maintien de l'ordre. Elle l'a perdu depuis les années 90. Elle n'a ni équipement, ni pouvoir, ni volonté de le faire. De plus, le peuple algérien a parfaitement démontré qu'il n'y avait aucune volonté d'occuper des espaces, aucune volonté de casser. Donc, toute mobilisation de l'armée serait perçue comme une provocation totalement stupide.
Une armée donc qui reste à sa place, elle est puissante. 500 000 hommes, la 17e mondiale, la première en Afrique, selon l'Institut de recherche sur la paix de Stockholm. Et les Algériens qui ne la craignent pas et même la respectent, elle a vaincu le terrorisme dans les années 90. Des Algériens qui eux aussi ont tout intérêt à ce que les manifestations se poursuivent de façon pacifique. Akram Karieff.
Ils vont rester calmes. Le message est clair. Les manifestations resteront pacifistes. Le meilleur moyen d'obtenir ce qu'on veut, c'est d'élever le niveau et de faire en sorte que ce soit le pouvoir qui vienne négocier et non pas nous par la violence.
Et donc des rassemblements toujours avec le sourire, Thomas, quand ils sont sous les lances à eau des policiers, comme mardi dernier, les manifestants demandent du shampoing ou présentent, pour qu'ils soient arrosés, des pots de fleurs.
Merci Thibaut Cavaillès. En Israël, le décompte complet des voix des élections législatives a permis hier soir de confirmer la victoire du Premier ministre sortant Benjamin Netanyahou sur son rival Benny Gantz. Le Likoud de droite obtient 36 sièges contre 35 pour la liste de centre-droit bleu-blanc. Et puis, hasard de l'actualité, au même moment où était confirmée la victoire de Benjamin Netanyahou, lequel, sous la menace de son inculpation pour corruption, se démène déjà pour former le prochain gouvernement, on apprenait par ailleurs que la sonde baptisée Au Commencement et qui devait se poser sur la Lune s'est écrasée lors de son alunissage en raison d'une panne de moteur survenue à la dernière minute. L'offensive dite de printemps des talibans marque habituellement le début de ce qui est considéré comme la saison des combats, même si ces dernières années, les combats en l'occurrence ont eu tendance à se poursuivre également pendant l'hiver. Toujours est-il que les talibans ont donc annoncé ce matin le lancement de leur offensive annuelle, et ce en dépit des pourparlers de paix en cours, tant avec les États-Unis qu'avec des représentants du gouvernement de Kaboul. Au Pakistan, au moins 16 personnes ont été tuées et 30 autres blessées aujourd'hui dans l'explosion d'une bombe sur un marché de Quetta, la capitale du Baloutchistan. Aucun groupe n'a pour l'instant revendiqué cet attentat. Précisons que cette province frontalière de l'Iran et de l'Afghanistan est non seulement le carrefour aujourd'hui de nombreux trafics en tout genre, mais aussi le théâtre régulier d'accrochages meurtriers entre forces de l'ordre, groupes djihadistes et séparatistes baloutches. Beaucoup moins loin, aux portes cette fois-ci de l'Union Européenne, il est un pays où la guerre avec les séparatistes a fait près de 13 000 morts en 5 ans. En Ukraine, ex-république soviétique, l'arrivée de pro-occidentaux au pouvoir en 2014 a été suivie par l'annexion de la péninsule de Crimée par la Russie, mais aussi une guerre pour l'indépendance menée par des rebelles pro-russes dans le Donbass à l'est du pays. C'est la raison pour laquelle le second tour de la présidentielle en Ukraine, prévu le 21 avril prochain, est aujourd'hui scruté de près par les Européens, au premier rang desquels la France et l'Allemagne. À 9 jours de l'échéance, les deux finalistes, le président sortant Porochenko et le favori des sondages, le populiste Zelensky, seront reçus coup sur coup cet après-midi à l'Elysée, où chacun des deux ne manquera pas d'exposer bien sûr ses objectifs, mais aussi ce qu'il considère comme leurs atouts respectifs, l'expérience pour Porochenko. Et puis pour Zelensky, cette idée à laquelle Emmanuel Macron, en l'occurrence, ne devrait pas être totalement insensible, qu'il représente un nouveau visage qui plus est jeune dans un paysage politique sclérosé. Les précisions de Claude Brouillot.
Le mois dernier, Volodymyr Zelensky a dit qu'il aimerait beaucoup rencontrer Emmanuel Macron. Au-delà du fait qu'il partage avec le président français le même hiver de naissance, il a bâti aussi son ascension éclair vers le pouvoir en misant sur le ras-le-bol de beaucoup de ses compatriotes vis-à-vis de la vieille classe politique. Le comédien candidat professionnel de l'image vient chercher dans la photo d'une poignée de main sur le perron de l'Élysée l'expression symbolique renforcée de sa capacité à jouer du dégagisme à l'ukrainienne. Car pour ce qui est de convaincre sur ses aptitudes à diriger un pays coincé entre une crise économique durable et un conflit régional qui l'est tout autant, Volodymyr Zelensky sait bien que le rendez-vous de cet après-midi ne suffira pas. La démarche de Petro Porochenko sera, elle, diamétralement opposée, arrivée en droite ligne de Berlin et des bureaux d'Angela Merkel, qui, elle, ne reçoit pas Zelensky. Le président ukrainien a tout misé sur le contraste total entre son expérience des situations de crise et celle inexistante de son adversaire, dans l'espoir d'un geste de soutien.
Alors évidemment, la présence des deux finalistes de la présidentielle ukrainienne auprès d'Emmanuel Macron cet après-midi, doublée s'agissant de Porochenko, de sa rencontre un peu plus tôt avec Angela Merkel, atteste du poids prédominant de la France et de l'Allemagne sur l'échiquier européen. C'était d'ailleurs aussi le cas cette semaine, avec tout d'abord la visite des deux côtés du Rhin de Theresa May, puis le sommet extraordinaire européen au cours duquel des divergences sont apparues dans le couple franco-allemand et même au-delà, entre le président français d'un côté, lequel plaidait pour davantage de fermeté à l'égard du Royaume-Uni, et puis de l'autre, la très grande majorité des 26 autres leaders de l'UE, beaucoup plus conciliants. Hier encore, sans disposer de droit de veto, la France a annoncé qu'elle se prononcerait contre l'ouverture lundi prochain de négociations commerciales entre l'UE et les États-Unis, alors même que tous les autres États membres en ont approuvé le principe hier. Enfin, l'on pourrait encore ajouter à cela les soupçons qui pèsent depuis mercredi dernier contre Emmanuel Macron d'avoir récemment bloqué un communiqué européen contre l'offensive du maréchal Haftar en Libye. Ou quand le chef de l'État français semble sinon isolé, s'isoler lui-même du reste de ses partenaires européens. Alors quelle est la part de diplomatie ou de stratégie dans cet et seulement élément de réponse avec notre correspondante à Bruxelles, Angélique Bouin.
C'est sans doute la nuit européenne consacrée au Brexit qui laissera le plus de traces. Le président français et sa posture assez martiale contre un report d'un an a passablement agacé certains de ses partenaires, qu'il fissure publiquement l'unité affichée jusqu'alors des 27 dans ce dossier miné a surpris. L'affaire libyenne a également donné à Paris l'occasion de se démarquer, mais le soutien français au maréchal Haftar n'a rien de nouveau. Et c'est surtout avec Rome que les intérêts divergent. Après quelques échanges entre ambassades, la déclaration finale appelant à ce que cessent les combats a finalement pris en compte une partie des demandes françaises. Dernier dossier chaud, le climat. Le président français l'avait clamé haut et fort en septembre 2018 devant l'Assemblée générale des Nations Unies. La France ne négociera pas d'accord commercial avec un pays qui ne signerait pas l'accord de Paris. Et bien là encore, le chef de l'État français se retrouve bien seul face aux intérêts de Berlin et de ses alliés. Donald Trump menaçait de taxer les automobiles européennes, secteur clé de l'économie outre-Rhin, si ce dossier n'avançait pas. La Commission européenne aura donc bien en main lundi un mandat pour aller négocier un futur accord commercial avec la Maison-Blanche, car dans le domaine, c'est la règle de la majorité qualifiée qui s'applique. On ne négociera néanmoins pas sur l'agriculture et l'ancien accord, le TTIP négocié puis suspendu en 2016, est déclaré obsolète, ce que voulait Paris. De sources proches de l'Élysée, on souligne l'absurdité de cette décision à un moment où les Européens déclarent vouloir porter haut et fort une ambition climatique. Pas question non plus, dit-on, qu'Emmanuel Macron, parce qu'il est seul, renonce à porter une voix forte face aux autres pays de l'Union.
La campagne électorale pour les élections générales espagnoles est officiellement lancée aujourd'hui, à peine 10 mois après l'arrivée des socialistes au pouvoir. C'est surtout la troisième fois en 3 ans et demi que les électeurs sont ainsi appelés aux urnes, après des élections qui n'auront jamais réussi jusqu'à présent à installer des gouvernements avec une majorité absolue. Quand le leader socialiste espère obtenir cette fois-ci l'appui de la gauche dite radicale, de Podemos, mais aussi de petites formations charnières telles que les nationalistes basques et ou les indépendantistes catalans, le PP espère lui revenir au gouvernement avec l'appui du parti de centre-droit Ciudadanos, mais aussi du parti d'extrême droite Vox. Pendant 10 jours, elle a sillonné les routes de France et au terme de ce voyage d'études, Leilani Farah, rapporteuse spéciale des Nations Unies sur le droit à un logement convenable, rendait ses recommandations au gouvernement français. Laura Dulieu, bonjour.
Bonjour.
Alors à la question de savoir si la France respecte bien les droits humains au logement décent, eh bien la réponse, Laura, apportée est plutôt sévère.
Oui, effectivement, Leilani Farah a visité plusieurs endroits, des campements de réfugiés ou de Rome à Toulouse, Marseille ou Calais, des hôtels où vivent des personnes mal logées ou encore un gymnase à Paris où dorment aussi plusieurs familles. Et à la fin de ces 10 jours de visite, la rapporteure spéciale était, disons-le, bouleversée lors de sa première déclaration, c'était ce matin.
C'est l'une des missions les plus chargées en émotions que j'ai eu à faire. J'ai été en Inde, en Égypte, mais c'est dû au fait d'être dans un pays riche, la 6e puissance mondiale, et d'y voir pourtant beaucoup de souffrance et de misère.
Mais selon cet experte en droit au logement décent, il ne s'agit pas de comparer la France avec un autre pays riche ou pauvre, non. Il s'agit de comparer la France à elle-même et c'est là que le constat est sévère car la France est l'un des rares pays à disposer d'une loi permettant de revendiquer devant un juge son droit à un logement convenable.
You have in this country the justiciable right to housing.
Dans ce pays, il y a le droit opposable au logement qui est garanti par ce que je considère comme une loi modèle, la loi Dalot. Pourtant, même si la France dispose d'un parc important de logements sociaux, ils sont finalement assez rares et inaccessibles.
Une loi modèle donc, mais qui n'est pas ou très mal appliquée. Et parmi ses autres recommandations, Leilani Farah demande à la France d'arrêter de privilégier les solutions d'urgence à court terme pour mettre en place de vraies solutions de relogement durable, sans compter les renvois de balles entre le gouvernement et les villes ou encore les expulsions forcées de certains campements qui, selon elle, ne respectent tout simplement pas les droits humains internationaux. Le rapport sera présenté au gouvernement en mars 2020.
Merci Laura Dulieu. Face à une opposition vent debout contre ce qu'elle dénonce comme un conflit d'intérêts, plusieurs membres du gouvernement ont été contraints de monter au front ce matin pour défendre la nomination à la direction de la communication de la Française des Jeux de Raphaël Rabatel, l'épouse du président du groupe La République En Marche à l'Assemblée Nationale. Je pense qu'on doit garantir aux conjoints, aux conjointes de responsables politiques de pouvoir aussi avoir une vie professionnelle, a notamment déclaré le ministre de la Culture. Franck Riester, également appelé à déminer la proposition du ministre des Comptes Publics, Gérald Darmanin, de supprimer la contribution à à l'audiovisuel public. Maud Calves, bonjour.
Bonjour.
Ce matin, invité de nos confrères de France Info, le ministre de la Culture est donc venu préciser les contours de la réforme de l'audiovisuel public et il en a profité pour s'expliquer donc sur une éventuelle suppression de la redevance.
Puisque la taxe d'habitation n'existera bientôt plus, le prélèvement de la contribution à l'audiovisuel public va devenir compliqué et coûteux. Puis les Français regardent de moins en moins la télévision sur le petit écran. Il s'agit là des arguments du ministre des Comptes publics auxquels Franck Riester répond.
Ce qui compte, c'est que les financements soient à la hauteur des ambitions, qu'ils soient pérennes et qu'ils permettent l'indépendance de l'audiovisuel public. Que chaque année, on ne se retrouve pas avec une épée de Damoclès dans l'audiovisuel public de voir ses financements réduits par une décision gouvernementale.
Les salariés de l'audiovisuel public craignent un risque de privatisation. Le gouvernement réfléchit à la création d'une entreprise unique regroupant Radio France, France Télé, l'INA, France Média Monde, une sorte de BBC à la française, mais le ministre de la Culture reste prudent.
Cette holding permettrait éventuellement de pouvoir mieux coordonner les actions de la télé, de la radio et de l'Internet. Mais ce n'est pas la seule solution, la décision n'est pas prise.
Il évoque aussi la possible collaboration entre France Télé et Radio France, comme on peut le voir sur la chaîne télé France Info. Seule certitude, pour le moment, il faut faire des économies, tout en gardant les principales missions de l'audiovisuel public.
L'audiovisuel public est un coût, mais aussi un investissement. C'est un investissement pour l'avenir. C'est un investissement en matière d'éducation, c'est un investissement en matière d'information. On a besoin d'avoir une information fiable, produite par des journalistes indépendants. Nous avons besoin d'un audiovisuel public fort.
Fort, mais qui coûte moins cher. Le projet est présenté cet été en Conseil des ministres, avec un vote attendu au Parlement au deuxième semestre 2020.
Merci Maud Calves. Ils sont censés nettoyer et désodoriser, bref, assainir nos logements et pourtant il semble qu'ils contribuent surtout à polluer l'environnement. Pis encore, les produits ménagers nuiraient même à notre santé. Jade Péchira, bonjour.
Bonjour Thomas.
Voilà donc ce qui ressort d'une enquête du magazine 60 millions de consommateurs, lequel a décortiqué la composition de plusieurs dizaines de produits ménagers parmi les plus vendus.
Ajax, Febreze, Saint-Marc, Sanitol, des produits pour laver le sol au liquide vaisselle en passant par la lessive, aucun n'est épargné et ça n'est vraiment pas du propre, c'est même l'hécatombe. Christelle Pangrazier est la rédactrice en chef adjointe de 60 millions de consommateurs.
Très sincèrement, il n'y en a aucun qui a eu grâce à nos yeux. Tous contenaient des substances néfastes, toxiques à différents degrés, mais tous en contenaient. Quand on fait une notation comme ça, on part du vert au rouge. Normalement, on a au moins quelques produits qui sont verts quand même. Et bien là, on n'en a aucun.
Des produits que nous utilisons au quotidien et qui contiennent des substances aux nombreux effets indésirables.
Alors on a retrouvé partout par exemple des conservateurs type isothiazolinone, méthylisothiazolinone, benzisothiazolinone. Ces conservateurs sont extrêmement irritants. On a retrouvé aussi des substances parfumantes extrêmement allergisantes type limonène, linalol, eugénol, citronellol, géraniol. On a retrouvé une troisième catégorie de produits qui est vraiment vraiment pas bonne. Il s'agit des ammoniums quaternaires. C'est la deuxième cause d'asthme en France.
Asthme, allergie, irritation, eczéma, c'est une chose, mais il y a encore plus alarmant.
On a décelé en fait des substances qui pouvaient être potentiellement perturbateurs endocriniens, cancérogènes, reprotoxiques, avoir une incidence sur le foie, sur les reins, c'est des risques graves.
60 millions de consommateurs préconisent d'aérer régulièrement son intérieur et surtout d'utiliser des produits naturels comme le savon noir, le bicarbonate, le vinaigre blanc. L'association demande aussi la mise en place d'un système de notation des produits ménagers comme le Nutri-Score pour la nourriture.
Merci Jade Péchira. L'invité Europe de la rédaction aujourd'hui, Shams El Ghonaïmi, ex-conseiller parlementaire au Parlement européen, en direct et en duplex de chez nos confrères à Lyon. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et à mes côtés pour vous interroger, Anne Fauquemberg. Bonjour Anne.
Bonjour.
Alors vous avez entamé, monsieur El Ghonaïmi, un tour de France des petites villes pour sensibiliser à l'idée de l'Union européenne. Et l'un des déclencheurs, notamment de cette tournée, c'est évidemment le Brexit que vous avez vécu en direct en juin 2016, puisque à l'époque vous étiez l'assistant parlementaire d'Aline Smith, un eurodéputé écossais de centre-gauche. Est-ce que vous imaginiez à l'époque que 3 ans plus tard, on y serait toujours ?
Non, absolument pas. J'allais pas imaginer qu'une démocratie aussi respectable, aussi importante dans l'histoire des grandes démocraties parlementaires n'aurait pas de vision si oui ou non elle aurait assez de médicaments dans quelques semaines. C'est-à-dire que c'est une impasse qu'on n'aurait absolument pas imaginée avec une économie qui est aussi forte que celle de la France, une population qui est aussi nombreuse et aussi éduquée. Ça dépasse l'entendement et ça montre à quel point le populisme est dangereux et juste un vide en fait qui nous propulse vers rien et qui nous fait perdre énormément de temps, mais aussi qui crée énormément de frictions et même de tragédies pour toutes les familles européennes au Royaume-Uni et britanniques dans le reste de l'Europe, dont l'avenir est clairement remis en question.
Question d'Anne Fauquemberg.
Il y a un an, vous étiez encore à Bruxelles avec l'eurodéputé écossais Alyn Smith. Quelle influence joue l'Écosse dans l'imbroglio actuel? La première ministre écossaise Nicola Sturgeon a encore dit récemment que son territoire deviendrait indépendant en cas de Brexit. C'est un scénario qui devient plausible.
Oui, alors, mon ancien député Alyn Smith avait fait un grand discours d'une minute avec une grande ovation juste après le Brexit, juste après que Marine Le Pen ait pris la parole. En disant, l'Écosse a voté massivement pour rester dans l'Union européenne. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais 85% des moins de 25 ans avaient voté pour rester dans l'Union européenne, et en moyenne 62% des Écossais. Et donc il a dit, Scotland did not let Europe down, do not let Scotland down. L'Écosse n'a pas abandonné l'Europe, alors n'abandonnez pas l'Écosse. Et c'est donc maintenant toujours le programme des Écossais, du gouvernement écossais, de toujours accueillir les étudiants, même s'il n'y aura plus d'Erasmus peut-être à l'avenir. Eh bien, les universités, par exemple, ont unifié leur financement pour garantir aux étudiants européens qu'ils pourront toujours être bienvenus en Écosse. Donc, c'est vraiment une nation qui n'a pas la même tendance et qui fait beaucoup plus confiance à l'Europe que ne le font, bien sûr, les Brexiteers. Donc maintenant, est-ce que le référendum bis arrivera? Ça, je ne peux pas le prédire.
Mais les Écossais sont-ils entendus au Parlement britannique?
Ça, c'est une grande question, parce que effectivement, ils sont numériquement seulement 5,5 millions sur un pays de 64 millions, 65. Donc ils sont toujours marginalisés. Alors on les voit parfois prendre la parole avec de grands discours, mais c'est parfois via des anciens Écossais, tels que Tony Blair ou Gordon Brown, par exemple. Mais les Écossais actuels, on les entend plus au Parlement européen, en fait, qu'à Westminster. Le Parlement européen étant beaucoup plus proportionnel et donc représente davantage les nuances politiques, en France aussi, qu'un système comme celui de Westminster ou celui de l'Assemblée nationale en France.
Shams El-Ghanemi, vous avez pris une année sabbatique pour prendre le temps de lutter contre l'analphabétisme institutionnel, je l'ai résumé comme ça, l'analphabétisme institutionnel des Français au sujet de l'Union européenne. Vous êtes en train de terminer une tournée de 100 débats dans la France dite périphérique. Quel constat vous dressez ?
Alors c'est pas mon terme, l'analphabétisme institutionnel, attention, mais déjà un constat, c'est que c'est extrêmement enrichissant de sortir de sa bulle. J'ai eu la chance de travailler au Parlement européen dans les coulisses, mais c'est encore plus intéressant, bien sûr, de parcourir 40 départements, de découvrir le fin fond de l'Aisne, le nord de la Thiérache, le sud du département du Nord ou le Gard. Et d'écouter les gens nous parler d'Europe, à quel point ils sont frustrés de ne pas avoir assez d'informations.
Et à quel point ils ne connaissent pas l'Europe.
Oui, clairement, vu tout ce qu'on leur dit, c'est assez désincitant en fait. Hein. Il y a tellement, tellement, tellement d'intox sur l'Europe. C'est chaque jour, non-stop, dans chaque région en France. Donc ça a fait du bien d'écouter les gens pour ensuite échanger et partager mon expérience au niveau de Bruxelles avec des gens qui en fait ont énormément de choses à dire sur l'Europe. Ont énormément de choses qu'on peut valoriser dans tous nos départements. Ça a fait des superbes échanges, de l'Ardèche à l'Aisne, en passant par le Pas-de-Calais. Enfin, c'est un tour qui, moi, m'a permis de confirmer que l'Europe passionne les Français. Elle intéresse vraiment. Hein. Il n'y a pas que les sondages qui le montrent. C'est du vécu. Les gens sont vraiment intéressés. Alors, vous allez me dire, c'est que les gens qui sont venus au débat. Oui.
Je précise, excusez-moi, je vous coupe. Je précise, parce que l'horloge tourne, que vous êtes adhérent à La République En Marche, que vous ne recevez pas de financement et que vous n'exercez aucun mandat dans ce parti. Mais toutefois, comment expliquez-vous que seul le Rassemblement National travaille cette France des petites villes avec cette tournée de mini-meeting dans les villes de 15 000 à 20 000 habitants, une centaine actuellement, qui à chaque fois rassemble.
Et ce sera la dernière question.
En fait, je ne suis pas vraiment d'accord. Je trouve qu'il y a aussi beaucoup de comités locaux, d'autres mouvements, d'autres associations qui essayent aussi, elles, d'avoir des débats et de ne pas laisser l'extrême droite monopoliser le débat sur l'identité, sur l'immigration, sur l'Europe. C'est moi, en tout cas, ce dont j'ai été témoin dans nos départements de l'Orne à la Marne. Il y a des gens qui ne sont pas du Rassemblement National, du Front National, et qui veulent à tout prix que l'on débatte de l'Europe. Ces gens-là, je les ai rencontrés.
Et on pourra vous écouter d'ailleurs dimanche dans la ville de Béziers.
Tout à fait.
Merci Shams El-Ghanemi, ex-conseiller, je rappelle, parlementaire au Parlement européen, d'avoir répondu en direct et en duplex depuis le bureau de nos confrères de Radio France à Lyon. Merci également à Anne Fauquemberg. On termine avec un mot rapide de météo et un ciel partiellement voilé à l'exception des régions autour du golfe du Lion où le soleil brillera généreusement. Quant aux températures, elles seront comprises cet après-midi entre 10 et 19 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Domergue. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Benoît Bouscarel pour le prochain journal de la rédaction.